Oui, nous avons le grand plaisir de recevoir Thomas Leroux, qui a déjà prononcé l'année dernière une conférence sur l'industrialisation de Paris au XIXe siècle. Thomas est chercheur au CNRS. Il fait partie du groupe de recherche en histoire environnementale. Et ses thèmes de recherche sont centrés sur les 18e et 19e siècles. Bon, et quand même aussi de temps en temps sur le 20e et presque le 21e. Les thèmes, ce sont l'histoire des risques et des nuisances industrielles et minières, l'histoire de la santé au travail, l'histoire des animaux en ville. Ah tiens, Thomas Leroux est membre du Centre de recherche historique et il est membre du comité d'histoire de la ville de Paris. Thomas est d'autre part l'un des animateurs de la maison Raspail. Donc la maison Raspail est à Cachan. Alors ça a été la maison de François-Vincent Raspail, 1794-1878, qui est une figure importante de l'histoire de France. Il était chimiste, botaniste et homme politique. Il a lutté pour la transformation sociale, la médecine populaire et la prévention de l'environnement. Alors, la maison dite Raspail, donc, est à présent un lieu ouvert aux associations, à des initiatives citoyennes, culturelles et sociales, et puis aussi un musée. Si ça intéresse quelqu'un, Thomas pourra nous en parler. Sur le site de la BAI, il y a un lien au site de la maison Raspail. Voilà, donc tout ça n'est pas si mal, et je te laisse la parole, cher Thomas.
Merci beaucoup Léon, merci pour cette invitation qui me fait grand plaisir. Alors avant de vous parler de ça, justement, parce qu'après on va peut-être oublier, on réouvre la maison Raspail samedi qui arrive, 8 mars, parce qu'on fait une saison d'ouverture mars-novembre, parce qu'il y a un parc tout autour, et puis l'hiver c'est un peu plus compliqué, le parc ferme, etc. Et donc, et notamment, ça pourrait vous intéresser, il y a une conférence que Constance Barbaresco, qui est ici derrière, organise sur la littérature prolétarienne féminine. Donc à 15h, alors c'est pas à la maison Raspail, c'est à la médiathèque qui est juste à côté, mais c'est dans le cadre des animations de la maison Raspail. Voilà, comme ça l'annonce est faite. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, le titre ici est peut-être un peu mal choisi finalement, parce que les vaches à Paris au 19e siècle, c'est un moment où les vaches vont décliner. Il y a un moment ascendant à la fin du 18e siècle, avec un point culminant qui va être aux années 1800 en fait, hein. Donc on a toujours un peu en tête que petit à petit, depuis le Moyen-Âge, la ville s'est débarrassée de ces animaux, avec des politiques d'hygiène publique, de séparation entre humains et non-humains, etc. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a eu effectivement des moments d'exclusion, mais il y a aussi eu des moments d'intégration dans la ville. Et c'est exactement ce qui se passe pour les vaches, puisqu'au début du XVIIIe siècle, on ne trouve pas de vaches dans la ville, elles sont même interdites. Pour plein de raisons, je vais vous les expliquer. C'est assez progressif et puis ça s'accélère à la fin du XVIIIe siècle. Paris et d'autres grandes villes en Europe vont être remplies de vaches. À tel point qu'en 1800, je le détaillerai tout à l'heure, il y a 5000 vaches dans Paris. Paris intramuros, attention, hein, c'est donc dans les 12 arrondissements actuels, les 48 districts de l'époque. 5000 vaches pour à peu près 550 000, 600 000 habitants, hein, ça fait à peu près une vache pour 100 habitants. Pour une agglomération de 11 millions d'habitants, ça fait 110 000 vaches dans Paris aujourd'hui. Si on veut se donner un peu un ordre de grandeur, ou si vous habitez à Montreuil, c'est 1000 vaches, ou à Saint-Denis, c'est 1000 vaches aussi. Voilà, ça donne un petit peu un ordre de grandeur. Donc, ce que je vais vous dire, vous raconter un peu aujourd'hui, c'est pourquoi ça a eu lieu, comment ça s'est manifesté, et quelles en ont été aussi les conséquences. Hein. Alors, pour bien comprendre tout ça, peut-être le point de départ, c'est de dire que le lait, comme aliment, comme boisson, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire humaine, en tant que lait d'une société de consommation, je veux dire. Parce qu'évidemment, le lait, il a toujours été bu dans le cadre d'une économie paysanne, hein, dans les campagnes. Beaucoup de paysans ont une vache, deux vaches, et puis ils utilisent un peu le lait pour faire des bouillies, pour éventuellement allaiter les nourrissons. Par manque de nourrice, si la maman décède, des choses comme ça. Hein. Donc c'est un aliment de survie, en quelque sorte, pour le monde paysan. Mais il n'est pas du tout commercialisé. Hein. Il n'est pas du tout commercialisé, il reste sur place, etc. La seule voie de commercialisation, c'est la fabrication du beurre et du fromage. Et là, ça peut se faire à une échelle assez vaste, dès le 14e, 15e siècle, etc. Par exemple, vous connaissez sans doute cette peinture hein, de Vermeer, du milieu du XVIIe siècle, hein, La laitière, c'est une de ses plus célèbres peintures, magnifique, qui représente donc cette figure de la laitière en Hollande, dans une région qui fabrique beaucoup de fromage et de beurre, qui s'exporte partout en Europe. Hein. Mais le lait que vous voyez ici, donc il est juste ajouté pour la gastronomie locale, etc. C'est vraiment une toute petite partie, il n'est pas commercialisé, essentiellement. Ce qui est commercialisé, c'est le beurre et le fromage. Mais le lait en tant que boisson, ce n'est pas un aliment encore. La raison en est simple, c'est que le lait, il se dégrade très vite, en fait. Il s'altère très, très, très vite. La prolifération des bactéries dans le lait est exponentielle, en fait. Hein. Elle n'est même pas arithmétique, elle est exponentielle. Hein. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, si vous commencez à boire du lait qui a été trait 24 heures, ça commence à être un peu problématique. Alors, il y a le problème du lactose aussi, hein, qui est le problème de digestion. Mais au-delà de ça, si la durée après la traite est trop longue, ça devient un poison. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de discussions jusqu'au XVIIIe siècle. Le lait, est-ce que c'est un médicament? Parce qu'il est aussi utilisé comme médicament par certains médecins. Est-ce que c'est un poison? Ça débat sans arrêt. Et le lait n'est pas considéré comme un aliment en réalité. Ça change au cours de la fin du XVIIe siècle, et c'est la raison pour laquelle on va retrouver ensuite des vaches. À partir de la fin du XVIIe siècle, on a commencé, les sociétés urbaines ont commencé à boire du café. Donc vous avez ici une illustration du café Procope, hein, qui a été un des premiers cafés à proposer du café, dans le quartier Saint-André-des-Arts, Odéon, hein, qui existe toujours. Et le café était sans doute très amer, pour faciliter sans doute le fait de le boire, il y a eu deux ajouts qui ont été faits, d'une part le sucre et le lait. Donc le fait que la consommation du café se soit accélérée, au début c'était seulement les sociétés aisées qui buvaient du café, puis ça s'est répandu dans les sociétés bourgeoises, puis ça s'est répandu dans les classes populaires. Hein. À la fin du XVIIIe siècle, on boit énormément de café dans Paris, on en boit aussi dans d'autres grandes villes, on n'en boit pas à la campagne encore, c'est pas encore très répandu, c'est vraiment un mode de consommation urbaine. De façon consécutive, la consommation de lait a augmenté de façon assez importante. Alors, première constatation qu'on peut faire, c'est que si on trouve des vaches dans la ville, dans Paris, à partir du milieu du XVIIIe siècle, hein, on va détailler un peu tout ça, c'est un peu une réplique du monde colonial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre, en fait, la présence des vaches urbaines au XVIIIe, XIXe siècle en Europe sans comprendre que derrière tout ça, il y a un phénomène de consommation qui repose sur des plantes colonial, qui repose donc sur l'esclavage, sur une économie de plantation, à grande échelle, à l'échelle mondiale, et que donc le lait comme boisson, en fait, est apparu comme une conséquence du monde colonial. Ce qu'on peut trouver dans des petites villes, en monographie, histoire locale, etc., ben, en fait, c'est simplement une conséquence d'une ouverture au monde, d'une exploitation de l'homme par l'homme, et du négoce transatlantique. Et alors, la consommation de lait, elle a commencé à se répandre, et elle s'est, au départ, répandue dans les cercles plutôt aristocratiques. Puis après, dans les cercles bourgeois. C'était une consommation d'élite au départ, hein, à la fin du XVIIe siècle. Progressivement, ça s'est répandu. Mais pendant toute une partie du XVIIIe siècle, il y a eu la mode, dans les châteaux aristocratiques, de la laiterie. Donc là, vous avez ici la plus connue, hein, c'est la laiterie de la reine Marie-Antoinette à la fin du XVIIIe siècle. Donc là, on est sur le hameau de la reine à Versailles, avec sa laiterie, donc son hameau, elle jouait à la bergère, hein, en fait. Hein. Beaucoup de gens se sont moqués d'elle, hein, de Marie-Antoinette jouant à la bergère ou à la petite fermière, ou à la laitière. Et c'était un lieu de sociabilité pour les mondaines, pour se réunir autour d'une laiterie souvent très richement décorée, construite par des architectes assez connus, avec du marbre, avec de la belle vaisselle, de la céramique, de Sèvres par exemple, etc. Et c'était un peu le salon de thé de l'époque, pour les beaux jours notamment, dans les parcs, hein, pour l'aristocratie. Et puis on trouve, au cours du XVIIIe siècle, beaucoup d'exemples de grands bourgeois, qui ont un petit parc, un petit jardin dans leur propriété, qui eux-mêmes vont imiter les codes de l'aristocratie, les codes de consommation, et vont commencer à boire du lait. Dans des parcs, avec des vaches qui allaient brouter sans doute dans le parc, et puis avec des vachers qui s'occupaient avec une propreté excellente, puisque c'était vraiment dans les milieux aisés. Ben, en fait, par imitation, et aussi parce que la consommation de café a augmenté, petit à petit, la consommation de lait est devenue importante. Alors, problème pour les grandes villes, pas trop pour les petites villes, c'est que, comme on l'a dit, donc le lait s'altère très vite. Donc, il faut le boire immédiatement. Il faut donc un circuit court, hein, comme on dit de nos jours, du producteur au consommateur. Il faut absolument que les vaches ne soient pas trop éloignées des lieux de consommation qui sont urbains. Donc pour les petites villes, des villes de 50 000 habitants, etc., c'est un peu une intensification évidemment de la production de lait, mais ça se passe à la campagne finalement, parce que dans toutes les villes du XVIIIe siècle, on a une campagne périurbaine avec des prés, etc., donc ça reste dans le cadre d'une économie presque paysanne. Pour les grosses villes, c'est beaucoup plus compliqué, parce que pour alimenter le centre de Paris, il faut parcourir tout l'espace qui va de la campagne au centre-ville. Par ailleurs, autour de Paris, au cours du XVIIIe siècle, les communs, ce qu'on appelle les communs, c'est-à-dire les pâturages laissés à la disposition des paysans, ont quasiment tous disparu et ont été remplacés par des prairies artificielles sur lesquelles les bêtes ne peuvent pas brouter, par des champs de céréales, etc. Ce qui fait qu'il y a eu une raréfaction autour de Paris de la disponibilité en prés. Et tout ça, ça aboutit finalement à aspirer toutes ces vaches des alentours vers le milieu urbain. Alors, avant que ça devienne un phénomène massif, il y a une figure qui devient importante de la vie parisienne, c'est la laitière. Vous avez ici une illustration, je crois que c'est vraiment la fin du XVIIe siècle, peut-être le début du XVIIIe siècle, j'ai plus la date là, mais on a plein de motifs comme ça, de ce qu'on appelle l'écrit de Paris. Donc l'écrit de Paris, vous savez, c'est toutes ces figures, des petits métiers des rues, la laitière, le ramoneur, etc., etc., qui parsèment beaucoup d'ouvrages avec l'essor de la gravure, etc. Donc la laitière rentre dans l'écrit de Paris au tout début du XVIIIe siècle. Mais avant, on a la laitière de Jean de La Fontaine, etc. Il y a déjà toute une littérature sur la laitière. Mais à partir du début du XVIIIe siècle, la laitière devient un motif de la vie urbaine, un motif qui véhicule plusieurs imaginaires. L'imaginaire de la fraîcheur, de la blancheur, de l'innocence, etc. Donc vous avez une représentation ici de Jean-Baptiste Huet, de 1769, qui représente la laitière un peu idéalisée, de cette jeune fermière, jeune fille souvent, très agréable à regarder, avec son déhanché que vous voyez ici. On verra un autre imaginaire plus tard, qui est celui de la fermière un peu rustique, qui vient porter un lait qui n'est pas forcément de très très bonne qualité. Mais donc ça devient une figure de la vie parisienne, parce que avant que les vaches soient réellement urbaines, il fallait donc tout un personnel de transport. Et ce transport n'était pas encore assuré par des laitiers professionnels avec leurs charrettes, leurs bouteilles en verre, etc. C'était la laitière qui partait des fermes périurbaines, ou suburbaines, et qui allait alimenter les rues de Paris. Voilà, ici, vous avez un pot en grès sur sa tête, mais souvent un pot de fer blanc. Elle vendait avec, normalement, une unité de mesure contrôlée, mais il y a eu beaucoup de contestations sur ces unités de mesure et des fraudes aussi, mais qui vendait donc son lait dans Paris. Ça donne une courbe de consommation de lait qui est en augmentation. Je suis en train d'écrire un livre sur cette histoire et j'aborde bientôt le chapitre consommation où je suis en train de compiler tous les chiffres que j'ai pu trouver sur la consommation du lait à Paris. Ici, c'est issu d'un livre qui s'appelle « Le lait à Paris » de Pierre-Olivier Fanica, qui avait déjà travaillé dessus et qui a commencé à faire des estimations de consommation de lait à partir de plusieurs sources qui sont citées ici. Et je suis en train d'affiner cette courbe parce que j'ai trouvé d'autres documents qui permettent de l'affiner. Alors si j'étais venu dans 2 mois par exemple, j'aurais pu vous présenter une courbe un peu rénovée, mais celle-ci est finalement assez fidèle et ça pourrait nous faire croire que la consommation de lait, elle commence à décoller après 1850 et que finalement ce qui se passe d'intéressant, c'est entre 1850 et 1900 ou 1910 parce que c'est là que ça décolle, Alors on va essayer de faire un petit effort d'imagination, parce que là c'est la consommation brute. On va essayer de déflater cette courbe en ajoutant un ratio par habitant. Et si on fait par habitant, ici donc on est à 500 000 habitants, mais ici on est à 3 millions. Et donc si on le rapporte au nombre d'habitants, la courbe en fait, elle augmente et elle finit par stagner. Elle a une forme tout à fait différente en fait. C'est intéressant évidemment de regarder les volumes bruts, mais pour voir un peu la réalité du phénomène, un peu plus intéressant de regarder par habitant. Donc en gros, en 1800, la consommation moyenne des Parisiens, c'est 1 décilitre de lait par jour. Ce qui est pas mal quand même. Je pense pas que, je sais pas si à l'heure actuelle c'est le cas, en boisson vraiment de lait. Progressivement, donc les vaches laitières se rapprochent. Alors elles se fixent dans les faubourgs au départ. Et puis la consommation augmentant encore, il y a une demande supplémentaire. Et avant la Révolution française, on en trouve vraiment de façon très très proche de la ville. Et puis subitement, sous la Révolution française, subitement, il y a 5000 vaches qui rentrent dans Paris. Pourquoi ? Pourquoi 5000 vaches pendant la Révolution française ? D'une part, alors je vous montre la carte. La carte qui est issue d'un recensement de 1800, parce qu'il y a eu plusieurs recensements Parce qu'un des problèmes, on va en parler, c'est les maladies hein, de ces vaches rassemblées dans des étables qui se transmettent des bactéries, voire des virus, etc. Donc il y a eu beaucoup de recensements de surveillance vétérinaire hein, de ces établissements. Donc on a des décomptes assez précis. Ici, on a le nombre de vaches presque complet parce que les archives ne sont pas complètes. Il manque 4 districts sur 48 qui présentent la répartition en fait, de ces vaches dans Paris. Donc vous voyez qu'on en a vraiment en plein centre-ville. Hein. On en arrive assez rapidement finalement à des milliers de vaches dans la ville. Alors la raison, premièrement, c'est, ça j'en avais déjà parlé un peu la dernière fois, sous la Révolution française, toutes les régulations en fait sont abolies. Hein, donc l'interdiction de la présence des vaches, elle a sauté comme beaucoup de règlements, en tout cas dans un premier temps. Hein, dans un premier temps. Ensuite, il y a eu pendant la Révolution française une crise de subsistance très forte, qui touchait les denrées de première nécessité. Et il y a eu une grosse difficulté d'approvisionnement pour l'alimentation des Parisiens. Hein. Le mouvement des sans-culottes sous la Révolution française, il est grandement lié à cette crise de subsistance, avec une pression des milieux populaires pour taxer les prix, les fixer à un minimum, hein, c'est la loi du maximum, etc. Et une grosse difficulté pour l'approvisionnement. Hein. Les Parisiens ont eu faim sous la Révolution française, et une solution, ça a été de produire dans la ville. Bah, le lait apporte des calories, le lait apporte des éléments nutritifs, et une solution a été, et ça, ça a été bien constaté par les autorités à la fin des années 1790, hein, ça a été une des solutions pour amortir le choc de subsistance. Une autre raison qui a favorisé, qui a permis ça, il y a beaucoup d'aristocrates qui ont fui, il y a même des grands bourgeois qui ont quitté Paris pour des raisons contre-révolutionnaires, et donc ça a libéré des espaces, dont certains ont été réquisitionnés, vendus en biens nationaux. Et dans ces espaces, il y avait des écuries. Parce que Paris accueille aussi beaucoup de chevaux. Encore plus même. Hein. Et donc il y a eu des espaces laissés vacants, laissés libres, dans les dents creuses de la ville ou dans des propriétés, pour pouvoir loger ces animaux, ces vaches. Et donc majoritairement, en fait, ces 5000 vaches de Paris, elles ont logé dans les écuries, les anciennes écuries de Paris. Pas toutes. Hein. J'ai trouvé des choses où on trouve deux vaches dans un ancien logement, hein, dans une cuisine, par exemple ici. Hein. Ça, y en a, en tout cas. Et puis parfois dans des appentis, en fond de cour, etc. Voilà un peu comment on peut comprendre ça. À la fois les troubles révolutionnaires, une régulation pendant quelques années qui n'était plus à l'ordre du jour, une nécessité de subsistance, des places laissées vacantes par le départ des chevaux, etc. Et donc on en est arrivé à un optimum de 5000 vaches. Alors c'est l'optimum, c'est-à-dire que dans le 48 districts qui correspondent à peu près aux 12 arrondissements actuels, c'est le record. Par la suite, la présence des vaches décline. Elle décline pour plusieurs raisons, pour des raisons d'hygiène publique, de surveillance sanitaire, où les autorités ont essayé de, pas d'exclure, hein, de desserrer un petit peu cette présence des vaches. Il y a aussi mutation des transports, des charrettes, du charroi. Ils sont un peu plus efficaces à partir des années 1820 notamment. Ça permet un transport du lait plus rapide et donc aux vaches de revenir dans les faubourgs plus éloignés. Et puis après, alors après c'est une autre histoire, mais avec les chemins de fer, etc., peut-être que j'en parlerai un peu à la fin, mais ça accélère encore le transport, ça permet aux vaches de retourner à la campagne, en approvisionnement la ville. Et puis il y a aussi tout ce qui est moyens de conservation qui vont s'améliorer, les contenants, les vases, les bouteilles, etc. Donc plusieurs facteurs qui aboutissent au desserrement urbain. Donc là on est sur l'optimum. Alors quand on regarde les autres villes en Europe, la seule ville comparable, c'est Londres, en termes d'habitants. Parce qu'en fait, il faut comprendre ça en termes de polarisation urbaine, qui est d'autant plus forte qu'il y a plus d'habitants. Parce que comme il y a plus d'habitants, il y a plus de consommation, et les villes sont plus grandes, donc une plus grosse difficulté de s'approvisionner par des vaches qui pâturent à la campagne. Donc plus la ville est grosse, plus il y a d'attraction hein, pour que les vaches soient dans la ville. Parce que les autres villes, c'est 100 000 habitants maximum. Hein, Hambourg, Berlin, c'est 100 000 habitants. Hein. En 1800, alors que là, on a deux villes qui ont 600 000. Londres, c'est plutôt 800 000 habitants. Donc, si on veut comparer, parce que dans les plus petites villes, finalement, les vaches sont encore à la campagne ou dans les faubourgs, c'est Londres. Et à Londres, ça se passe de façon très différente, même si le niveau de consommation de lait, c'est le même à peu près. Il y a le même nombre de vaches aussi. On est sur 5-6 000 vaches. En fait, là, c'est 5 000 vaches dans Paris, mais il y a aussi celles de la campagne alentour. Donc, on est sur des approvisionnements qui sont à peu près à la hauteur de 8000 vaches. Hein. Pour Paris, on peut compter 3000 vaches dans la campagne autour, avec les laitières qui continuent d'approvisionner. Londres, c'est un peu différent. D'une part, il n'y a pas eu les troubles révolutionnaires, hein, donc il n'y a pas eu cette tension extrêmement forte. D'autre part, Londres, c'est une ville quatre fois moins densément peuplée. C'est une ville plus peuplée, mais qui est quatre fois plus étalée. Ça laisse de la place, beaucoup plus d'aération pour avoir des prés, etc. Donc dans St. James Park, dans Hyde Park, etc., les vaches pâturent. Ce qui n'est pas le cas dans Paris, parce qu'il n'y a pas de Paris. Enfin, très très peu. Par ailleurs, à Londres, vous avez la localisation. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est un collègue. C'est le comté de Islington. Islington, c'est quoi? C'est des prés quasiment à l'infini. Enfin, c'est très très grand, hein, en fait. Hein. Dans Londres, à ses abords immédiats, il y a énormément de prés, ce qui n'est pas le cas à Paris. Ce qui fait que à Londres, on en trouve dans la ville, un petit peu. On en trouve surtout aux abords de la ville. Et la grosse différence, hein, entre Londres et Paris, c'est que à Paris, et ça j'en reparlerai, les vaches restent dans leur étable et elles ne sortent pas. Elles sont attachées et on leur donne à manger. On enlève le fumier, etc. C'est la profession des nourrisseurs, hein, qui est chargée de ça. Donc nourrisseur, c'est un mot qui apparaît, hein, parce que c'est pas des vachers, c'est pas des fermiers, c'est pas des cultivateurs, ce sont des nourrisseurs. À Londres, l'hiver, elles restent à l'étable, mais l'été, elles sortent, comme ça se fait à la campagne. Et l'été, elles vont brouter l'herbe des plaines d'Islington ou d'autres endroits. Alors ça, c'est une première différence importante. Deuxième différence aussi importante, c'est que le système de Londres, et de beaucoup d'autres villes par ailleurs, comme il y a du pâturage, etc., ça permet aux nourrisseurs ou aux fermiers qui s'en occupent de mettre leurs vaches à la reproduction. C'est-à-dire qu'elles font un veau tous les ans. Il y a des pâtures, elles mettent le taureau, et puis les vaches font un veau tous les ans. Et puis donc ça provoque une lactation qui dure quelques mois, et c'est durant cette lactation que donc, le lait est tiré et il est vendu. Pour Paris, c'est pas possible. Parce qu'elles sont dans les étables, et on ne peut pas mettre le taureau comme ça dans l'étable. Enfin, c'est trop petit, il n'y a pas de pâturage, etc. Souvent, on compte un taureau pour 40 bêtes, hein, 40 vaches à peu près. Hein, c'est un peu la jauge, ça dépend des endroits. Et donc, c'est pas possible. Et les vaches, on ne les fait pas ressortir des étables pour aller les mettre en pâture à 10 ou 15 km pour attendre qu'elles soient saillies, et puis après, les faire revenir, etc. Donc, autre différence très importante, ici, on a l'invention, non seulement donc de la position fixe dans une étable, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la stabulation permanente, mais on a aussi l'invention de gouvernement des vaches, c'est le mot qui était employé, gouvernement des vaches, sans reproduction. Hein, donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau, en rupture totale avec la façon d'élever une vache. D'ailleurs, l'élevage, c'est ça, hein, l'élevage, c'est la reproduction des bêtes. Là, on est sur un élevage qui n'est pas un élevage, en fait. Hein. Donc ça, c'est une chose importante qu'on peut garder en mémoire pour la suite. Alors, les vacheries de Paris, par chance, il y a des archives, notamment celle du Conseil de salubrité qui s'occupait aussi des pollutions industrielles. C'est d'ailleurs par ces archives que je suis rentré là, dans cette histoire des vacheries. D'ailleurs, le mot vacherie, hein, est beaucoup moins flatteur que le mot laiterie qu'on a retrouvé dans les parcs aristocratiques. Donc il y a une surveillance sanitaire réalisée par le Conseil de salubrité de Paris et il reste à peu près 800 rapports de visite de ces établissements. Ils sont assez répétitifs, etc. Je vais vous montrer un exemple. Donc il y a le tableau du nombre des rapports, avec un pic après 1815, en 1814-1815, il y a eu une épidémie de peste qui a décimé les vacheries de Paris, et donc il y a eu une sorte de réapprovisionnement du bétail, hein, il y a un petit pic là en 1816-1817-1818, pour réapprovisionner les étables. Là je suis en train de refaire la cartographie 1805-1830, hein, parce que sur 25 années, je peux avoir les noms, les adresses, la description des étables nouvelles parce que ces dossiers concernent les demandes d'autorisation, parce qu'à partir de 1806, les nourrisseurs devaient demander une autorisation pour s'installer. Alors les avis étaient toujours positifs en général, à très très rares exceptions, les autorités ont accepté que de nouvelles vacheries s'installent dans la ville. Et ensuite, en 1810, elles ont été classées par le décret sur les établissements insalubres, donc elles ont été considérées comme des usines, comme des fabriques. Ça c'est aussi intéressant, parce qu'on n'est plus dans le monde paysan, on est dans le monde de la fabrication du lait. D'ailleurs, on va appeler à partir de cette date, un peu après, il y a des traités sur les vaches laitières. Hein. Ce n'est pas des vaches, ce sont des fabriques à lait ou des machines à lait. Hein. C'est vraiment les termes qui sont employés. C'est le début de la zootechnie, qui est aussi très employée pour l'engraissement du bétail, pour la viande, etc., sélection des races, etc. Et là, ça va être employé pour les vaches laitières, et notamment les vaches laitières urbaines. Alors, le chef de l'inspection sanitaire et le grand apôtre, enfin le grand chef des vacheries parisiennes, c'est Jean-Baptiste Huzard, qui est un vétérinaire, qui était membre de l'école vétérinaire, qui, qui en 1789 avait déjà fait un rapport très intéressant sur les vaches de Paris, où il montrait qu'elles n'étaient pas vraiment encore dans Paris, mais elles étaient aux abords. Donc on voit bien que c'est sous la Révolution française que c'est vraiment apparu. Et Jean-Baptiste Huzard, c'est lui, avec son fils, qui s'appelle aussi Jean-Baptiste, donc il y a Huzard père et Huzard fils, sont eux qui vont écrire à peu près les 800 rapports qui restent dans les archives. Hein. Et alors, c'est assez rigolo, parce que ils sont chargés de veiller à l'hygiène publique, etc. Et donc là, je vous ai mis, par exemple, un rapport d'une vacherie rue 3 rue Popincourt. L'établissement est bien placé quant à son orientation, mais dans le plus grand état d'élabrement quant au bâtiment et de malpropreté quant à la tenue. Alors, le pavé est dégradé, l'eau et les urines y séjournent, le fumier empêche l'écoulement dans la rue, il y a un puits mitoyen qui entretient l'humidité, le plancher fait de mauvaises... Le plancher, c'est le plafond, en fait, hein, est fait de mauvaises planches qui sont dégradées, pourries, à travers lesquelles pendent des pailles du grenier. C'est très dangereux pour le feu, on ne peut porter une lumière à la main sans danger. Ah oui, parce que la nuit, on rentre avec une bougie, hein, enfin une chandelle. Ce plancher est en si mauvais état que le vacher qui m'a fait voir le local a passé au travers et est tombé dans les tables sur la litière. La cour est aussi mal pavée, aussi mal propre que les tables. Fumier, gravats, trous, les eaux y séjournent sans écoulement. Dans les chaleurs, il y a des exhalations putrides et malsaines. L'espèce de cuisine qui sert de laiterie est aussi mal tenue que le reste de l'établissement. Mal pavée, plus basse que la cour, sans eau, l'eau n'a pas d'écoulement. Les pots de lait sont couverts de rouille. Bon, bah, avis favorable. Voilà, il y a 800 rapports qui sont un petit peu comme ça. Avis favorable avec pour condition de remédier à tous ces inconvénients. Voilà. Finalement, la police sanitaire, elle s'est très bien faite à cet établissement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce traumatisme aussi de la Révolution française, de l'approvisionnement en matière de première nécessité. On trouve régulièrement des mentions que... il y a une activité commerciale, il faut qu'elle se tienne, etc. C'est en écho un petit peu, pour ceux qui étaient venus m'écouter il y a un an, à l'attitude du Conseil de salubrité vis-à-vis de l'industrie, qui a toujours été une attitude de bienveillance industrialiste, pour accepter l'industrie dans Paris, parce que ça procurait des emplois, parce que ça procurait de l'activité, etc. Et c'est un peu la même chose qui se passe dans le processus des vacheries parisiennes, à tel point qu'il y a eu toute une controverse sur la qualité du lait de Paris, parce que ce sont des vaches qui ne bougent pas, qui ne font pas d'exercice, qui sont dans des étables assez insalubres, et qui mangent, on va en parler, des choses pas très adaptées, on va dire, au fait que ce sont des ruminants qui ont besoin de manger de l'herbe. Que la qualité du lait a été mise en cause par beaucoup de monde, et les vétérinaires Huzard père et fils ont toujours fait des rapports pour dire que ce lait était tout à fait bon, et qu'il ne pouvait pas véhiculer de maladies. Alors, un des problèmes, c'est que ces vaches ont développé des tubercules dans les poumons, ce qu'on appelait la phtisie pulmonaire, ce qu'on a appelé ensuite la tuberculose bovine. Parce que leur régime alimentaire et le fait qu'elles étaient statiques, ça leur faisait développer ça. Et que, vous le savez peut-être, mais la tuberculose bovine se transmet à l'homme. Elle se transmet à l'homme par le contact, par la respiration, mais aussi par les produits, par le lait et la viande. D'accord ? Et donc, pendant toute cette période, les grands, ils sont membres de l'académie, ils sont... dans les plus hautes distinctions de la science, hein. Les plus grands scientifiques officiels ont dit qu'il n'y avait pas de danger pour l'homme. Dans le sens contraire, il y a énormément d'observateurs, des journalistes, des anarchistes, etc., qui ont dit que c'était dangereux pour la santé. Mais on leur a dit qu'ils avaient tort. Donc là, dans ce cas-là, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais dans ce cas-là, la science a eu tort, et c'est plutôt les savoirs vernaculaires ou les savoirs populaires, hein, qui avaient raison. Alors, ça ressemble un peu à ça, une étable. Ici, c'est à Londres. Hein. Donc, vous voyez, on est en 1825 et vous voyez un comptoir de vente. Alors, ici, c'est un peu une vacherie moderne. Hein. D'ailleurs, si elle a été dessinée, c'est aussi pour ça. Une laiterie moderne, on voit un laitier ici qui transvase du lait. Et derrière, on voit 4 ou 5 vaches qui sont juste derrière. Alors, ça avait un avantage, hein, pour le consommateur, c'est qu'il pouvait venir boire son lait directement. Il pouvait même voir la vache en train de se faire traire. Même si la traite dans le monde urbain commence à 3h du matin, donc pour que le lait soit prêt à 5h, pour être livré et vendu. Bon, on a souvent ce genre d'étable. Alors la moyenne pour Paris, hein, c'est 6-7 vaches dans une étable, 6-7 vaches, mais ça va de une vache, dans ce que j'ai trouvé, à 72. Hein, donc l'éventail est très large. Il y a beaucoup de professions qui ne sont pas vraiment nourrisseurs, qui ont une vache dans la ville. Par exemple, je retrouve beaucoup de pensionnés de guerre qui sont blessés. Il y a eu beaucoup de soldats blessés, hein, pendant cette période révolutionnaire et Napoléon. Et donc, ils arrivent, ils sont estropiés, ils ont une petite pension militaire, mais ils comblent leurs revenus avec une vache. Ça leur permet d'avoir un peu une alimentation et puis de vendre un peu de lait. Par contre, après, on a des nourrisseurs qui sont un peu plus professionnels, qui vont faire même la profession de nourrisseur laitier, surtout après les années 1820-1830, hein, et construire des vacheries ensuite beaucoup plus importantes, dont la première là que je vous ai montrée, hein, la Procession, où là, on a vraiment un établissement, mais plutôt milieu 19e siècle, voire deuxième partie du 19e siècle. Hein, mais c'est une mutation qui se fait progressivement. Alors, comme on est en ville, et qu'il n'y a pas de pré, et qu'il n'y a pas de champ, il faut apporter l'alimentation, et il faut sortir le fumier. Hein, donc ça, il y a toute une logistique qu'on peut traquer avec l'idée du métabolisme. Alors, ce qu'on appelle le métabolisme, hein, donc des flux de matière. C'est comme pour les chevaux aussi d'ailleurs, hein. Mais pour les vaches, donc il y a tout un flux de matière pour apporter du fourrage, pour apporter de l'alimentation et pour faire ressortir du fumier. Donc en gros, une vache, ça mange à entre 2 et 3% de son poids en foin. Et après, elle ne mange pas que du foin, elle mange plein d'autres choses. Et après, donc c'est une question d'équivalence. Hein. Par exemple, pour 1 kg de foin, on calcule qu'il faut 5 kg de pommes de terre, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'eau dans la pomme de terre, etc. De plus en plus, au cours de la période, mais de façon assez rapide en fait, il y a une disparition de l'herbe. Parce que l'herbe fraîche, il y en a très peu autour de Paris. Et le temps de l'amener, elle a déjà fané, etc. Donc ça, c'est un problème pour la vache, parce que la vache rumine et elle a besoin d'une herbe fraîche. En fait, c'est son corps, il est fait comme ça, son système digestif est fait comme ça. Les ruminants sont des animaux qui ont 4 estomacs et elles mangent de l'herbe qui va dans un premier estomac qui s'appelle le rumen. Et ensuite, il y a une première phase de transformation. Et ce qui a été mis dans le rumen remonte dans la gueule de l'animal. Et c'est là qu'elle rumine. Ouais. Hein? Et ensuite, c'est réinjecté dans les 3 estomacs successifs. Hein? Donc ça, c'est un système digestif qui correspond au fait de manger de l'herbe, soit fraîche, soit sèche. C'est le foin. À partir du moment où on leur donne autre chose, ça fonctionne de façon pathologique. Donc parce que c'est plus du tout adapté à leur constitution. Et il se trouve que de plus en plus, ça a commencé déjà à la fin du XVIIIe siècle, les agronomes ont promu l'alimentation des vaches. Alors, c'est pas la farine animale encore, mais on est dans la même logique, hein, par des racines ou des tubercules. Racines, donc ça va être betteraves, carottes, etc. Tubercules, ça va être les pommes de terre. Soit crues, alors ça pose des problèmes, hein, soit cuites. Ça pose aussi des problèmes. Digestion, c'est pas tout à fait la même chose. Puis c'est plus cher de les faire cuire. Mais en tout cas, de plus en plus, les vaches, on leur a donné, et notamment donc les vaches urbaines, une alimentation qui, naturellement, ne leur était pas destinée. Et puis, c'est les calculs des rations, de l'équivalence alimentaire. Les chimistes commencent à s'intéresser beaucoup aux rations alimentaires pour l'homme, bien sûr, mais aussi pour les animaux. Et donc, il y a toutes des tables de conversion entre l'herbe fraîche, le foin et toute une série d'autres produits alimentaires. En tout cas, il faut les amener. Donc, il y a une logistique de transport, une logistique de voiturier. Les nourrisseurs sont très liés au monde des voituriers. Ils sont très liés aussi au monde du maraîchage. Il y a une ceinture de maraîchage tout autour de Paris. Parce que les maraîchers aussi donnaient des végétaux, des feuilles, de choux, de carottes, etc. pour les vaches. Et en retour, donc, les nourrisseurs vendaient leur fumier. C'est aussi pour ça qu'il y a une culture maraîchère très importante autour de Paris. Hein. C'est, les maraîchers de Paris sont les plus réputés de l'Europe à l'époque parce qu'ils ont une agriculture très productive en fait. Et pourquoi elle est très productive? Parce qu'ils ont énormément de fumier. De fumier de vaches, de fumier de chevaux. Les deux étant souvent mélangés. Et puis ça leur permet de faire pousser par exemple des melons toute l'année. Sur la plaine d'Aubervilliers, il y a des grandes plaines à melons, etc. Parce que le fumier dégage de la chaleur par la fermentation, hein, et donc par un système de couches et de cloches, en fait, ça dégageait une chaleur permanente. Et donc les primeurs de Paris, etc., c'est lié aussi à la gestion du fumier. Donc il y a une logistique d'aller et venue des matières dans la ville. Et puis ça provoque une transformation de l'agriculture parisienne aussi, ce phénomène. D'une part, il y a ces étapes de vaches laitières, hein, sans élevage, donc pas de veau. Le maraîchage tout autour, ça travaille en symbiose, en interconnexion. Des cultures un peu dédiées, alors il y a les céréales bien sûr pour l'alimentation humaine, mais des cultures dédiées en proche banlieue parisienne, notamment ce qu'on appelle les prairies artificielles. Prairies artificielles, c'est donc la culture de la luzerne, du trèfle, du sainfoin notamment. qui sont coupés, fanés, séchés pour faire du foin d'herbe artificielle. Alors, le problème de ces herbes artificielles, hein, c'est que c'est pareil, elles n'étaient pas trop adaptées. Une vache, quand on la met dans un pré, elle va choisir. Elle choisit ce qu'elle va brouter. Hein. Là, on lui donne, déjà, c'est de la monoculture, hein, donc on leur donne que de la luzerne ou que du sainfoin, etc. Et puis, dans leur système digestif, elles fermentent différemment de l'herbe, elles s'échauffent et les vaches gonflent. Elles ont des gaz, mais elles peuvent quasiment exploser, c'est-à-dire elles en meurent en fait. Hein, et ça peut arriver très rapidement. En fait, la production de gaz par l'ingestion de luzerne, de sainfoin ou de trèfle, c'est hyper rapide. Et donc il y a des techniques, hein, pour les sauver, de percer la panse et puis de faire sortir l'air. Enfin, il y a plusieurs techniques. Ça, c'est très connu parce que très très vite, ils s'en sont rendus compte. Mais ça n'a pas empêché de continuer. Et puis, il y a un autre type d'aliment qui arrive, qui connecte beaucoup ces vacheries avec le monde industriel, c'est tous les résidus de l'industrie agroalimentaire. Et l'industrie agroalimentaire, à l'époque, en fait, elle est très importante pour la production de fécule. Donc, le fécule ou d'amidon, hein, c'est un peu la même chose. Donc, mais la fécule, ça va être l'amidon, non pas des graines, mais des pommes de terre. Ce qui s'est passé, c'est que au XVIIIe siècle, l'amidon était fabriqué avec plutôt des graines, de froment, de céréales. Et au début du XIXe siècle, avec l'essor de la culture des pommes de terre, il y a eu une forme de transition et c'est plutôt avec la fécule contenue dans les pommes de terre que ça a eu lieu. Sauf que la fécule, c'est juste une petite partie de la pomme de terre et donc les résidus qui restaient de cette industrie agroalimentaire étaient énormes. Et donc l'idée, ça a été de les donner aux vaches. Et puis ensuite, on a eu l'idée de distiller ces pommes de terre pour en faire un alcool, une eau de vie qu'on appelle la vodka, par exemple, dans certaines régions. De distiller aussi d'autres racines, par exemple la betterave. Donc il y a eu un alcool d'eau de vie de betterave au XIXe siècle. Et les betteraves étaient utilisées aussi pour fabriquer du sucre. Hein. Et dans les deux cas, distillerie, féculerie, sucrerie, donc dans les trois cas finalement, mais surtout sur une base de pommes de terre et de betterave, en fait tous ces résidus ont été destinés à la nourriture des vaches. Il y a beaucoup de sources qui montrent des comptes d'entreprises aussi qui montrent que ces établissements n'ont pu fonctionner que grâce aux vacheries. Sinon, ça leur faisait trop de résidus à perte, alors que là, elles pouvaient vendre ces résidus et ça leur faisait des revenus. Et quand on pense que les distilleries, c'est de l'alcool fort, et quand, vous savez sans doute qu'un des problèmes du 19e siècle, c'est non seulement la tuberculose dont on a parlé, mais c'est aussi l'alcoolisme. Hein. Si vous avez lu L'Assommoir, la consommation d'eau de vie, en fait, après 1820, connaît un essor sans précédent. Et cet essor de la consommation des eaux de vie, en fait, il est lié à nos vacheries. Donc, si on regarde sur les boissons, hein, le lait, il vient du café, des colonies, et il aboutit à une autre boisson, l'alcool fort, avec un autre phénomène qui est celui de l'alcoolisme. Alors à Paris, il y avait pas mal de brasseries, donc de bières, donc les résidus c'est la drèche, hein, les drèches, il y avait des distilleries aussi, mais c'est surtout à Londres et ensuite à New York que ça a eu lieu ce phénomène. Donc là on est dans le sud de Londres, on a la Tamise ici, donc là c'est le quartier de Southwark, alors c'est une carte qui a été faite par un autre collègue. Ici, il a mis en valeur les points rouges, les vacheries, et les cercles rouges, les distilleries. Et elles sont en fait très proches les unes des autres, et c'est même les distillateurs qui viennent s'installer à côté des vacheries, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir vendre leurs résidus. Et ils savent que grâce à la vente de résidus, ils vont pouvoir faire baisser le prix de leurs alcools, et donc pouvoir le vendre, et avoir une économie de l'alcool qui soit profitable. Donc à Londres, c'est sous une forme plus importante, le lien distillerie-vacherie est plus important qu'à Paris. Et c'est surtout à New York en fait que ça a eu lieu, de façon plus importante, parce qu'à New York, là, c'est carrément les distillateurs, les fabricants de whisky qui sont arrivés en ville, et ce sont eux qui ont fait construire des étables dans leur usine en fait. Là, vous avez une illustration de l'installation de Johnson, c'est le plus gros distillateur de New York, donc là on est en 1858 ici. 1858, mais il est installé depuis la fin des années 1820. Et ça a marqué le début des vacheries urbaines à New York. Alors New York, à l'époque, c'est moins de 100 000 habitants, hein, 1820. Par contre, une progression de la population très importante. 1850, je ne sais plus combien d'habitants, mais il y en a au moins 300 000 ou quelque chose comme ça. Et donc là, ce n'est pas les vacheries urbaines qui sont installées au cours du 18e siècle, et puis ensuite les distillateurs qui sont arrivés. C'est les distillateurs, les fabricants d'alcool fort qui sont arrivés et qui ont construit leurs étables. Et à Johnson, ici, là où on voit des vaches un peu maltraitées, avec des étables qui sont connectées les unes aux autres, donc là, on a 2000 vaches. C'est-à-dire qu'on a, sur plusieurs bâtiments, les uns à côté des autres, à côté de la distillerie, on a des énormes étables de 2000 vaches. Là, les traitements sont encore pires que pour les vacheries parisiennes. Et donc, elles sont alimentées uniquement là par les résidus de ces établissements. Et leur durée de vie, c'est entre 6 mois et 9 mois, en fait. Parce que très vite, elles perdent leurs dents noircissent et elles perdent leurs dents. Pourquoi ? Alors déjà, leur système digestif est complètement détruit. Et puis, on leur donne ces résidus à l'état chaud encore, ce qui sort des chaudières. Et il y a tout un système de pipeline, là, comme ça, qui leur fournit directement dans l'auge quelque chose qui est encore chaud et un peu alcoolisé. Il y a des témoignages qui montrent, plus pour les cochons, des cochons qui sont ivres d'avoir mangé ces résidus de distillerie. Pour les vaches, il y a aussi 2-3 mentions dans ce sens. Alors, ça a provoqué un gros scandale à New York. Hein. C'est ce qu'on appelait le scandale du swill milk, le milk des déchets, le lait des déchets. Des démographes ont pu constater qu'entre 1830 et 1860, avant les premières régulations, il y a eu une augmentation très importante de la mortalité infantile. Parce que ces vaches étaient tuberculeuses aussi. Elles transmettaient la tuberculose par le lait. Peter Atkins, qui avait fait la carte sur Londres, a mis en valeur ça aussi pour Londres. Et là, je suis en train d'essayer de le faire aussi pour Paris, avec les chiffres que j'ai, etc., avec plein d'hypothèses et puis des réserves. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc on est sur un système donc de mise en étable avec des laitières et des nourrisseurs. Donc les laitières continuent d'exister, continuent de vendre leur lait dans Paris. Tendance à disparaître malgré tout, hein, avec une tendance à disparaître. Pourquoi ? Parce que il y a premièrement la vente directement à l'établissement de nourrisseurs. Donc une vente directement sur place, toujours les ventes de laitières. Mais à partir des années 1820-1830, il y a la profession de crémier qui apparaît avec des boutiques. Et ces crémiers commencent à être un peu des négociants et à collecter du lait par ailleurs et à le vendre de façon un peu plus commerciale, on va dire. Alors c'est très difficile à tracer parce que avant 1860, le lait n'est pas taxé, pas d'impôt, pas d'octroi et aucune source commerciale en tout cas. Donc on arrive à approcher un peu la réalité par d'autres sources. En tout cas, il y a quand même une commercialisation du lait qui se fait de plus en plus. Et puis à partir des années 1830, avec les premiers scandales sur la qualité du lait, et puis aussi l'amélioration des charrois, des contenants, etc. Il y a des fermiers qui se remettent en place en proche banlieue et qui disent que eux, ils vendent du lait pur, eux, ils vendent du lait qui vient des prairies, puis ils inventent des systèmes de contenants avec un cachet, avec le nom de l'entreprise, etc. Il y a un marché, un nouveau marché qui apparaît avec ce qu'on appelle les marchands crémiers ou laitiers, qui détrônent la laitière dans la commercialisation du lait. C'est assez marrant, c'est qu'à partir de ces années-là, il y a énormément de pièces de théâtre ou de littérature qui parlent de la laitière, la petite laitière, etc. Mais sous un mode un peu folklorique, comme un monde qui est en train de disparaître par rapport aux laiteries plus commerciales, avec des prix qui s'affichent, avec des boîtes, avec leurs marques en quelque sorte. Hein. Donc c'est un peu la disparition des laitières qui se fait progressivement, d'autant plus que dans les années 1830, il y a vraiment une politique de chasse aux laitières, mise en place par les autorités dans la plupart des villes de France, on les empêche de vendre sur les trottoirs, ensuite on les empêche de vendre sous les portes cochères, on les oblige finalement à vendre dans des espaces qui se restreignent de plus en plus en fait, hein, et la laitière disparaît. Alors, elle disparaît pas complètement, hein, on en trouve des photos dans les années 1900 encore, mais ça devient quelque chose d'assez folklorique. Alors la mise en étable aussi, les observateurs se rendent compte, hein, le mal qu'ils font aux bêtes. Donc par exemple Jean-Baptiste Huzard, dont j'ai déjà parlé, avant d'être le vétérinaire en chef, etc., il était assez jeune, en 1789, c'est lui qui fait un rapport sur les vaches de Paris, à la suite d'une maladie qui s'est répandue, qui n'a pas été très très bien diagnostiquée, on ne sait pas trop ce que c'était, mais c'était une maladie pulmonaire. Et on peut lire un petit peu un extrait de son rapport extrêmement intéressant, où là il montre pas que les vaches sont complètement dans Paris, elles sont dans les faubourgs encore, hein. Donc ce qu'il dit, c'est qu'on les tient dans une clôture et dans un repos absolu. Hein. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, hein. C'est que c'est des vaches qui travaillent en étant tout le temps au repos. C'est considéré comme meilleur pour la lactation. Une fois entrées dans leur nouvelle étable et attachées à une place, elles ne la quittent ordinairement que lorsque le propriétaire déménage ou pour être livré au boucher. Parce qu'une fois que la lactation décline, à partir d'un certain seuil, en fait, bah, si ça tombe en dessous de 4 litres, bah, c'est plus rentable. Parce qu'il faut lui donner trop à manger, et la lactation, donc elle décline au cours du temps. Les nourrisseurs achètent une vache fraîchement vêlée, le veau il est tout de suite mis à la boucherie, la vache est amenée dans leur étable, et ensuite bah, la lactation elle dure quelques mois, puis elle décline, et à partir du moment où ça descend sous 4 litres à peu près, ils la mettent au boucher. Elles ne sortent même pas pour boire, ça c'est vrai aussi, c'est-à-dire que les étapes sont fixes, elles sont attachées. Il y a toujours un puits. Ça, c'est une obligation que les nourrisseurs doivent avoir, c'est d'avoir un puits à proximité. Il en résulte que leurs ongles prennent, donc leurs sabots, prennent un accroissement qui finit par leur ôter la liberté de marcher. Ça, c'est parce que leurs sabots, c'est comme nos ongles, ils poussent. Et comme ils ne s'usent pas, ils restent statiques, ça suit. Donc jusqu'à 30 cm. Et que plusieurs, ne pouvant plus se tenir debout par l'excessive longueur et la courbure de leurs pieds, qu'on n'a pas le soin de faire rogner, contractent l'habitude de rester longtemps sur les genoux. Les étables, ou plutôt les lieux auxquels on donne ce nom, et qui presque jamais n'ont été originairement destinés aux animaux qu'ils renferment, sont généralement mal construites, mal placées, mal tenues, basses, remplies d'ordures, n'ayant le plus souvent d'autres issues que celles de la porte, par conséquent mal aérées et toujours hermétiquement fermées. Quelques-unes de ces étables sont si basses qu'on ne peut y tenir debout. Les vaches y sont très serrées et ne peuvent se coucher que l'une après l'autre. Donc là, on est en 1789. Les rapports, les observations sont assez nombreuses. Ici, c'est celle de Pierre Hamon, qui a été à l'origine de la création de la SPA. La SPA qui a été créée en 1846, d'ailleurs au moment où il rédige ce texte. Alors, c'est intéressant la SPA parce que jusqu'à présent, l'histoire de la protection des animaux et tout ça, la SPA, l'idée c'était que c'était parce que les hommes étaient violents, brutaux par rapport au cheval, surtout, et aux chiens, etc. Mais surtout le cheval, c'est le cheval qui a focalisé l'attention. Et quand on regarde les rapports de création de la SPA, on se rend compte que oui, le cheval est très présent, bien sûr, mais la vache laitière est aussi présente. Ce qui n'apparaît pas dans toutes les histoires de la SPA, je ne sais pas pourquoi. Je crois que le cheval a attiré l'attention des historiens. Alors il y en avait plus, oui. Et puis ils étaient brutalisés dans la rue, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde. Alors que là, c'est une violence sourde. C'est une violence sans violence. Les vaches n'étaient pas battues ou frappées au fouet parce qu'elles n'avançaient pas, puisqu'elles étaient en repos absolu. Mais il y avait effectivement une forme de violence. Donc Hamon dit, c'est dans un article, mais il a écrit d'autres textes qui sont préparatoires à la loi Gramont de 1850 sur la protection des animaux, parce qu'après la SPA 1846, il y a eu la loi Gramont de protection des animaux. Donc pénétrez dans les étables des nourrisseurs, qui trouvez-vous? Dans chaque laiterie, 30 ou 40 vaches, serrées les unes contre les autres, sur un fumier épais, des excréments amoncelés comme à dessein. Pour habitation, un trou étroit. Dans ce trou, un air méphitique, ammoniacal, qui vous prend au nez et à la gorge. Dès qu'une vache entre dans ce bouge, c'est une victime condamnée à mort. Fixée par la tête à la mangeoire, on en fait une fabrique de lait. Et pour que la fabrique produise au gré du maître, celui-ci pousse à la nourriture et tient sa vache dans un repos absolu, persuadé que dans cette condition, elle rendra davantage. La vache devient malade, son lait diminue, le maître rédige une sentence de mort. La maladie augmente, la sécrétion de lait baisse encore. Quelle destinée, quelle méconte et quelles inconcevables pratiques! Emprisonner un animal qui a besoin d'exercice, lui refuser l'air que Dieu a répandu autour de nous? Voilà ce qu'on ne comprend pas. Cette fabrique de lait, sise au milieu d'une grande ville, n'est trop souvent qu'une fabrique de poison que la société tolère. 8 ou 9 000 vaches forment à Paris une vaste entreprise alimentaire. L'hygiène publique réclame impérieusement la cessation de ces abus. Donc il y a eu plein d'alertes en fait, il y a eu plein de personnes qui ont dénoncé ça. Finalement les autorités hygiène publique, etc. n'ont pas réellement agi, ils ont considéré que l'intérêt des commerçants, des nourrisseurs et aussi d'une alimentation de base pour la population, c'était plus importante, c'était une question de priorité. Et parmi les acteurs intéressants que j'ai pu retrouver, il y a Jean-Baptiste Rougier de la Bergerie. Jean-Baptiste Rougier de la Bergerie, à la fin du XVIIIe siècle, un peu comme René Dumont, qui est devenu le militant écologiste, il était ingénieur agronome productiviste au départ. Rougier de la Bergerie, c'est pareil, il était agronome productiviste au départ. Il a promu les prairies artificielles, la fin de la jachère, la fin des communs, une forme d'agriculture intensive. Il a même été préfet sous Napoléon Ier, pendant plusieurs années préfet de Lyon, donc c'était aussi un agent de l'État, de l'ordre public. Et après la chute de l'Empire, et un petit peu avant à vrai dire, mais dans ces moments-là, il a rompu avec l'Empire dans les dernières années. Il s'est, pour des raisons diverses, mais sans doute avec un grand malaise vis-à-vis de la modernité industrielle, il a repris le parti en fait d'une agriculture plus paysanne en fait, et donc il s'est mis à dénoncer ce régime de production de lait dans les étables urbaines. Rougier de la Bergerie, dans ces années-là, dans les années 1820, ça a été aussi le grand dénonciateur de la déforestation. Et il est connu pour ça d'ailleurs, ou le grand dénonciateur de l'assèchement des marais. De nos jours, de plus en plus d'historiens ont mis la lumière sur lui comme un pré-écologiste, en fait, hein, un peu comme René Dumont l'a été, modernisateur, partisan de l'agriculture intensive, puis ensuite écologiste. Et donc, sur les vacheries et sur les vaches, il écrit aussi. Et donc, la quatrième classe des vaches, parce qu'il y a les vaches qui travaillent, il y a les vaches portières, et puis il y a un autre type de vaches plutôt mixtes. Donc, les vaches portières, celles qui élèvent, qui font des veaux, les vaches qui travaillent, beaucoup de vaches travaillent dans les champs. Donc, la quatrième classe, les vaches laitières, se compose de celles qu'on nourrit dedans et autour des villes, qu'on force au lait, qu'on aménage pour tous les mois de l'année. Mais l'extrême ou le prodige de ces sources de lait se fait surtout remarquer à Paris et aux environs. Les vaches y sont moins une variété de la race bovine qu'une monstruosité à part. On y a trouvé le secret de convertir en lait la plus grande partie des substances fourragères, des liquides et jusqu'au sang de ces animaux. On y a trouvé le moyen de tenir les vaches dans une sorte d'appétit vorace et en même temps dans un état perpétuellement maladif et tel que, semblable aux animaux dévêtus, elles redoutent et pourraient périr même ou sous un vent de bise ou sous une pluie froide. Dans les vacheries de Paris et des environs, il s'opère des métamorphoses faites pour étonner le naturaliste. Tous les organes de capacité prennent une extension démesurée, la chair fuit les os même s'amoindrissent, la peau est moins un cuir qu'une mince épiderme. La corne des pieds s'allonge au point que la moindre marche fatigue ou blesse l'animal. Ce n'est plus enfin lavage de la nature. Et donc il a fait toute une série de constats. D'autres observateurs ont fait des constats identiques. François-Vincent Raspail, lui-même, notamment dans son manuel annuaire de la santé, c'est intéressant de regarder, hein, la première édition, François-Vincent Raspail, il dit « Bon, j'étais malade, j'étais en ville, je suis parti à la campagne en Normandie pour restaurer ma santé. » Et il dit « Bah, en fait, à Paris, je m'oblige à pas boire de lait parce que je sais que c'est un poison. Et là, j'ai bu du lait normand, j'ai trouvé que c'était un nectar et ça m'a guéri. » Et après, il raconte que ça lui a donné l'idée de faire un manuel annuaire de la santé. Donc, c'est le best-seller d'automédication du 19e siècle. Hein. Et donc, après, dans son Histoire naturelle de la santé et de la médecine, qui a connu aussi un grand succès, il dénonce, avec une verve peut-être un peu moins lyrique que Jean-Baptiste Rougier-Labergerie, mais quand même bien enlevée, il dénonce aussi le système des vacheries urbaines, et notamment le fait qu'elles soient nourries, hein, par les résidus de l'industrie agroalimentaire. Et puis il écrit ensuite, en 1857, Le fermier vétérinaire, qui est un peu une ode aussi au savoir paysan par rapport à la santé des animaux. C'est un peu presque une aparté, mais en lien quand même avec ça. Et donc je vais m'arrêter là, parce qu'après ça décline, les vacheries urbaines déclinent. Pourquoi ? Parce qu'il y a les chemins de fer, qu'on commence à mieux conserver le lait. À la fin du 19e siècle surtout, il y a la pasteurisation, qui permet d'enlever les bactéries du lait et de pouvoir conserver le lait, pas indéfiniment bien sûr, mais sur des très longues périodes. Hein. Et donc, ça permet aux vaches de retourner à la pâture. Alors, ça ne veut pas dire que la stabulation disparaît. Hein. La stabulation qui a été un peu inventée durant cette période, elle reste un modèle. Elle reste un modèle pour beaucoup d'éleveurs, mais souvent en stabulation mixte, hein, qui n'est pas forcément annuelle. En retournant à la campagne, elles redeviennent des portières, c'est-à-dire qu'elles redeviennent des reproductrices. Hein, donc, elles ont une durée de vie qui est leur durée de vie naturelle, presque. Alors que là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, j'en ai pas parlé, mais au début, elles sont achetées vers 8-9 ans. C'est-à-dire que c'est les herbagers qui ont des vaches un peu vieilles qui les vendent. Mais de plus en plus, c'est des jeunes vaches qui arrivent dans les étables. Hein. Donc, elles arrivent à 3 ans, une lactation, et à 4 ans, elles partent en boucherie. Hein. La durée de vie d'une vache, c'est 15 ans à peu près. Hein. Ça dépend des races, évidemment, de leurs conditions de vie. Là, vous avez une carte qui a été réalisée par mon collègue Jean-Luc Pinol il y a une dizaine d'années, sur les vacheries de Paris en 1895. Donc on est effectivement sur 3000-4000 vaches, encore hein, dans Paris en 1895, mais on est sur les 20 arrondissements actuels, sur 2-3 millions d'habitants, enfin avec l'approche banlieue. Donc on est sur un contexte très très différent. À l'époque là, en 1895, le lait de Paris, enfin ces vacheries fournissent 10% de la consommation, 10% de la consommation de lait de Paris encore, c'est encore important, mais c'est pas les 100%. Qu'il y avait un siècle plus tôt. Hein. Donc on est plutôt sur une phase de déclin, et la pasteurisation, ça va être le coup fatal. 1910, il n'y a presque plus de vacheries, et 1920-1930, la dernière vacherie, c'est peut-être dans les années 1960. Mais là, par exemple, au début du XXe siècle, vacherie a cédé sur l'île de la Cité. On est sur l'île de la Cité, là je crois qu'il y a un troupeau de 15 vaches ou quelque chose comme ça. 18 vaches avec leur production, 18 vaches qui fournissent 230 litres, donc elles produisent plus de 10 litres par jour. La moyenne dans les années 1800, c'est plutôt 6-7 litres. Hein. Donc effectivement, au cours du siècle, on n'est pas encore dans le cadre d'une sélection des races par des croisements, par une sélection génétique. Hein. C'est plutôt une sélection après naissance, à l'achat, les nourrisseurs qui vont juger un peu la vache comme ça. Donc en 1900, On trouve encore des vacheries dans Paris, et là, il y en a une belle de 18 quand même, près de l'hôtel de ville, hein. Donc tout près d'ici. Ben voilà, je m'arrête là, en vous remerciant. On peut discuter.